Les chroniques du vivant de Corinne.
Prendre soin de la terre avec Terre de Liens. Bonjour à toutes et à tous. La loi d'orientation agricole, adoptée par le Sénat le 20 février 2025 et partiellement retoquée un mois après par le Conseil constitutionnel, élève l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Nous aurions pu nous en réjouir. Oui, mais voilà. Dans le même temps, elle dessine des atteintes irrémédiables à la biodiversité et à l'environnement par diverses dépénalisations, notamment sur les pesticides. Cette loi trace parallèlement la poursuite et l'amplification d'une agriculture productiviste au titre de la souveraineté alimentaire, mais ne propose rien sur le foncier et sur le renouvellement agricole, et rien non plus pour les agriculteurs ou les paysans qui souhaitent s'installer sur un modèle d'agriculture biologique. Selon le mouvement Via Campesina, mouvement international altermondialiste, la souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires. Terre de Liens, association nationale créée en 2003, œuvre dans ce sens et propose des alternatives pour préserver les terres agricoles, fournir une aide à l'installation de paysans et accompagner la transmission de fermes, tout ceci dans le respect de l'environnement et de la biodiversité pour une agriculture nourricière. Je les cite. Terre de Liens veut être un moyen d'exercer collectivement la responsabilité de chacun d'entre nous envers la répartition et les usages de notre terre, de nos sols, de nos paysages, de nos campagnes. Terre de Liens est un outil de gestion d'un bien commun, la terre. Pour évoquer ce sujet, je reçois ce jour Annie Dalban, André Guiguet et Sébastien Pioche. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Terre de Liens s'articule autour de trois structures. Pouvez-vous nous les présenter rapidement ?
Alors, Terre de Liens, Annie. C'est un mouvement de citoyens, d'abord. C'est un mouvement qui repose sur trois piliers. La fondation qui reçoit les dons et les legs, la foncière qui est propriétaire des terres et des fermes qu'elle achète, et enfin la fédération des associations régionales. On est organisé sur les anciennes régions, donc pour nous c'est l'association Languedoc-Roussillon.
Au niveau de la foncière, est-ce que c'est différent de la fédération? Parce que vous parlez de dons, de donations, de legs. La foncière est propriétaire, est-ce qu'elle achète elle-même?
La foncière achète.
Des terres.
C'est la foncière qui achète les terres. La fondation, elle reçoit les dons et les legs parce qu'il faut une fondation reconnue d'utilité publique.
D'accord.
Pour ça. Et la foncière, elle achète. La fondation achète aussi quand il y a, par exemple, des fermes qui sont en donation, mais en achat aussi. Des fois, les deux sont combinés. La foncière achète et ensuite, elle est propriétaire. Donc, elle gère tout le foncier et notamment tous les bâtiments qui sont dessus. La fédération, c'est différent. La fédération, elle regroupe les associations régionales. Elle regroupe donc les, je ne sais plus combien on est de bénévoles, les 5000 bénévoles
du
territoire. Et donc, sur l'association Languedoc-Roussillon, ça fait un peu plus de... Il y a un peu plus de 500 adhérents et à peu près 150 ou 200, je ne sais plus, bénévoles actifs.
Et quelles sont vos valeurs essentielles?
Ben c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est la préservation des terres agricoles dans le respect de l'environnement, bien sûr. Sébastien pourra en parler, pourra nous expliquer comment il fait sur sa ferme, puisqu'elle a été achetée l'année dernière. En fait, pour acheter les fermes, il y a tout un processus qui prend de longs mois, puisque la foncière ne revend jamais ses propriétés. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit transmissible.
Alors, ça fonctionne
sur le long terme.
Avec des baux
Avec des baux ruraux environnementaux. Donc, les bails ruraux, ça démarre à 9 ans et ça peut aller jusqu'à un bail de carrière. Avec des clauses environnementales qui sont déterminées en accord avec le fermier.
Donc, elle se base sur une... Je crois que c'est la préservation des terres nourricières, parce que la terre, vous considérez que la terre est un bien commun.
Oui.
Hein? Et donc, préserver la terre, c'est cultiver en bio, c'est en agroécologie, c'est...
C'est tout ça. C'est le bio d'abord, ensuite l'agroécologie pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. C'est la préservation de l'eau aussi. C'est le partage de l'eau et la préservation des sources de l'eau.
Oui, de l'eau, c'est très important. Avec tout le problème du partage de l'eau et de la non-contamination des points de captage. Donc, Terre de Liens a vraiment comme objectif de soustraire les terres à l'artificialisation, à la construction de lotissements. Ce qui fait que quelquefois, Terre de Liens est un peu en contradiction, on va dire, avec les désirs de certains propriétaires qui auraient aimé passer leurs terres en constructibles. Mais Terre de Liens trouve que c'est quand même plus important d'avoir de l'agriculture vivrière autour des villages et des petites villes plutôt que d'avoir des tas de lotissements qui dépendent des grandes surfaces et de l'approvisionnement en train, en camion.
Tout à fait, surtout à l'heure du réchauffement climatique.
Et des guerres, si on est un peu pessimiste, qui risquent aussi d'entraver la circulation des marchandises. Parce qu'il faut qu'on puisse manger s'il y a des problèmes graves.
Oui, bien sûr. Et donc, après, comment vous arrivez à acquérir des terres, à les trouver et
L'acquisition, elle se fait par l'épargne citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens, au lieu d'acheter, enfin les habitants, au lieu de placer leur argent à la banque ou acheter des actions Total, par exemple, ils achètent tout simplement des actions Terre de Liens. Et c'est avec cette épargne citoyenne que la foncière achète les terres et les fermes.
Et comment vous arrivez à savoir Alors, est-ce que vous fonctionnez, par exemple, avec la SAFER
On fonctionne avec tout le monde. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont des terres à vendre ou d'autres qui en cherchent, qui s'adressent directement aux associations régionales. Donc, sur l'association Languedoc-Roussillon, il y a un salarié qui reçoit toutes les demandes, toutes les offres et qui met ça sur un tableau régional. Et ensuite, ce sont les bénévoles qui s'inscrivent sur ce tableau et qui reçoivent par téléphone le porteur de projet ou le cédant, de façon à cerner, on a un questionnaire pour ça, de façon à cerner leur projet le mieux possible, et ensuite de le mettre dans la base de données et essayer évidemment de faire matcher les offres et les demandes. C'est l'objectif.
Oui, ok. Ouais. Bon, parce que je crois que le problème à l'heure actuelle, c'est que souvent, il y a des transmissions de fermes, toujours pour agrandir déjà de l'existant.
Oui, alors on a...
C'est un peu le problème de l'agriculture,
oui,
ça.
On travaille quand même avec la SAFER. D'ailleurs, on a une convention au niveau de la région avec la SAFER. Mais des fois, ça marche. Et des fois, c'est plus difficile. C'est-à-dire que l'attribution d'une vente... Alors que Terre de Liens est candidat, des fois, il faut se battre pour avoir l'attribution de la vente. Et voilà, ça dépend des circonstances, ça dépend des projets, en fait. Voilà.
Il faut dire aussi qu'il y a des sociétés qui se montent pour échapper au contrôle de la SAFER, pour échapper au droit de préemption, parce que comme ce sont des sociétés commerciales, on va dire, pour faire vite, la SAFER n'a pas son mot à dire. Ça lui passe complètement sous le nez, quoi. Et on ne le sait pas. Et il y a des grandes propriétés qui sont vendues comme ça.
D'accord.
Et qui sont destinées à de l'agriculture industrielle.
Oui. Avec la bénédiction. Ça marchait un peu illicite quand même, quoi.
Non, pas du tout. Non. Autrement, ça aurait été, ça aurait été attaqué. Mais c'est tout à fait licite, simplement.
C'est légal.
C'est la ruse de certains financiers qui veulent avoir des terres pour spéculer.
Oui, c'est des sociétés qui ont des parts. Oui. Et en fait, le paysan, lui, il va garder 1%, par exemple. Et il va céder 99%, donc il a plus la majorité, et donc ça part à n'importe quoi, en fait. À n'importe qui, à n'importe quoi.
Et les sociétés lui demandent de cultiver telle ou telle chose. Voilà. Il est dépossédé de ses terres, il est salarié, mais il ne fait plus du tout ce qu'il veut. Et ça, c'est un gros, gros problème en ce moment.
En effet, oui.
Il y a beaucoup de gens qui se méfient et qui essayent de traquer ce genre de société qui passe un peu sous les radars, mais... Il y a une vraie, vraie tendance à l'accaparement des terres, quand même.
Oui. Et justement, Terre de Liens, en plus, dénonce l'incapacité de la France à nourrir la population, puisqu'il y a beaucoup de terres, je pense, qui partent en agriculture pour les exportations, pour l'export.
Bah, en fait, oui, quand on parle de souveraineté alimentaire, la France n'est plus du tout, n'est plus du tout souveraine au niveau de, pour son alimentation, puisque elle exporte l'équivalent, ce qui correspond à 43% de ses terres, alors que normalement, avec 28 millions d'hectares, on pourrait être autonome en quelque sorte, suffisant. Et en fait, du fait de l'exportation, eh ben, en fait, on importe des tas de choses. On importe deux fois plus qu'il y a 20 ans. Et il y a des choses, par exemple...
On importe tous les intrants, tous les produits chimiques. Oui. On importe aussi du lait, des légumes, de la viande, du poulet. Et nous,
et des céréales, je crois, aussi.
Oui, aussi.
Alors qu'elles
partent.
L'exemple des pâtes, je vais vous le lire parce que c'est... Les pâtes illustrent l'absurdité de la situation. Avec nos 250 000 hectares de blé dur cultivés chaque année, nous pourrions aisément produire les 15 kilos de pâtes par personne et par an. Hélas, le blé produit sur 2/3 de ses surfaces est vendu hors de nos frontières et de nos estomacs. Résultat, la France importe les 3/4 des pâtes et semoules qui nourrissent sa population.
Oui. Voilà, c'est les accords internationaux de commerce. Et les agriculteurs sont laissés, peut-être pas piégés, mais ont joué ce jeu-là parce qu'on leur a
C'est un peu garanti. Désespérant, hein, parce que finalement, la petite paysannerie disparaît petit à petit au profit de grands groupes comme ça. Voilà. À ce propos, Sébastien, tu as bénéficié donc de l'appui de Terre de Liens pour installer une petite exploitation à Agnan, c'est ça?
Oui, alors l'exploitation était déjà en fonctionnement depuis plus de 10 ans quand j'ai rencontré Terre de Liens sur le territoire.
Oui.
Mais je les ai sollicités parce qu'une partie des terres que je louais était mise à la vente. Et j'avais pas la possibilité, pour diverses raisons,
de racheter.
Mmh. Et puis, au-delà des possibilités, c'était aussi quelque chose de plutôt une éthique aussi, parce que je ne suis pas du tout du milieu agricole. Et de savoir que ces terres appartiennent à Terre de Liens me réconforte quelque part, parce que comme moi j'ai pu des fois avoir du mal à trouver de la terre pour cultiver quand je me suis installé en 2011, ben je me dis aujourd'hui ces terres sont dans le berceau des terres de Terre de Liens, et donc les futurs préposés agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, qui veulent s'installer, ben, ils pourront bénéficier de ces terres.
Oui, ça veut dire que toi, si un jour tu veux arrêter la...
Voilà, si je veux un jour passer la main, arrêter pour diverses raisons, ben, ces terres, elles vont rester à vocation nourricière, agricole, maraîchère, en bio évidemment, puisque Terre de Liens n'accepte que les fermes en bio. Oui. Voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé aussi beaucoup, quoi. C'est pas que l'incapacité financière d'acheter, quoi. C'est vraiment le fait que, vu que je suis pas du milieu agricole et que je suis rentré dans ce milieu-là un peu à la force du poignet, et plus ou moins, bon, il y a eu des moments plus ou moins galères pour trouver des terres. Et donc je me dis que ben, voilà, ce qui est fait, ce qui est en route sur ces terres-là, ben, va perdurer, quoi.
Oui, c'est un peu un gage de sécurité pour la vocation des terres, pour le devenir des terres après toi aussi.
Oui, voilà.
Maintenant,
et puis grâce à l'engagement de Terre de Liens aussi, ces terres-là, malgré qu'on soit dans une région fort potentiel viticole, elles ne vont pas se transformer en viticulture, elles vont rester en maraîchage. Donc ça a aussi un intérêt nourricier. Elles sont gardées là-dedans, comme tu disais tout à l'heure. En fait, ça va continuer à garder de la proximité, production de légumes, proximité des villages. Quoi.
Circuit court.
En vente directe.
Ouais. Oui, tu fais les...
Moi, après, je fais de la vente directe. Donc, le devenir de l'exploitation, on ne sait pas, mais... Oui, marché d'Agnan.
Le jeudi matin. Je le dis, hein, que les auditeurs aillent te voir.
Oui. Ils viennent nous voir parce qu'on est... Il y a plein de choses intéressantes.
Et au niveau de la commune, est-ce qu'il y a... Tu es en relation, par exemple, pour les cantines, pour fournir...
Non, pas avec les cantines. On m'a sollicité, mais bon, c'est pas notre créneau. Donc, on ne travaille pas avec eux, mais peut-être il y en a d'autres qui travaillent avec eux. Mais sinon, la commune d'Agnan, en particulier, est assez engagée sur le sujet de la sécurité alimentaire, sur le territoire. Donc,
Très bien. Et tu n'as pas rencontré de problème pour l'eau ?
Ah, l'eau. Moi, je crois qu'on a plus ou moins eu des problèmes, tous, en tout cas tous les agriculteurs.
Oui,
et pas que les agriculteurs, peut-être. Ouais. Hein, même. Mais ces dernières années, oui, on a eu quelques années un peu compliquées. Là, cette année, bon, on a l'air d'avoir un peu plus de chance, en tout cas pour l'instant. Mais oui, il y a eu quelques difficultés en approvisionnement d'eau, mais bon... voilà, c'était pas de la faute à personne, je crois, c'était simplement la ressource qui était pas là,
qui
était pas là au bon moment. Après, bon, voilà.
Ensuite, le partage de l'eau entre les viticulteurs et les maraîchers sur Agnan, elle est problématique. Quand
même. Le partage de l'eau, oui, j'allais en parler, mais je me suis retenu parce qu'en même temps, bon, les choses, elles sont faites comme ça pour l'instant, et c'est difficile de manœuvrer cette grande barque-là qui nous dessert l'eau, qui est le canal Lazad du canal de Gignac. Ouais. Et bon, voilà, ils font comme ils peuvent depuis le temps que c'est installé. Et c'est pas évident non plus, parce que c'est quand même une région qui... Enfin, c'est une région viticole. Le canal a été construit par les agriculteurs... Et aujourd'hui, c'est les plus gros cotisants sont des viticulteurs, quoi. Il y a beaucoup plus de viticulteurs qui cotisent pour ce fonctionnement que d'autres types d'agriculture. Donc, quelque part, bon, c'est pas évident.
Oui, mais il faudrait peut-être réfléchir quand même à une autre répartition de la ressource.
Oui, on n'est pas contre. On travaille avec le canal. Hein. Ils sont vraiment pas fermés à la discussion et au travail dans le devenir de l'ASA, dans le devenir de la distribution de l'eau. Ils sont ouverts au dialogue et ils nous ont reçus. On a monté un petit collectif là, sur la vallée de l'Hérault, qui n'a pas de nom, mais c'est un petit collectif qui regroupe des maraîchers, des arboriculteurs et quelques particuliers aussi sensibles sur le sujet. Et donc, on se réunit pour savoir un peu voilà, les difficultés, les besoins de chacun, voir comment on peut être actif sur ce sujet de l'eau, essayer de rencontrer le canal, porter une voix un peu plus commune, un peu plus fondée en y allant avec un ou deux représentants qui portent la voix de l'agriculture diversifiée, en tout cas maraîchage, arboriculture, on est plutôt là-dedans. Quoi.
Vas-y,
j'allais dire maraîchage, arboriculture ou pépinière. Après, on a des collègues vignerons qui sont sensibles à la cause, malgré qu'ils soient vignerons. Je veux dire, la viticulture n'est pas bannie, n'est pas exclue, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est plutôt pour essayer de voir comment on peut s'organiser avec les distributions de la ressource et les distributions de la ressource en fonction des vrais besoins à certains moments clés. Quoi.
Voilà. Oui, parce que l'ASA de Gignac, elle ferme les robinets l'hiver quand même.
Elle ferme
donc
les robinets l'hiver.
Ça oblige les maraîchers à avoir des réserves.
Oui.
Et tous n'ont pas les moyens d'acheter des bouillottes, enfin des réserves d'eau.
Oui,
pour
ça, c'est sûr.
Parce que les arboriculteurs, par exemple, quand ils plantent, c'est à l'automne qu'ils ont besoin d'eau.
Ils plantent à l'automne, ils ont besoin d'eau à l'automne, c'est le cas.
J'ignorais que l'ASA ferme.
Elle ferme, le 15 octobre.
Mais elle ferme pour plusieurs raisons. Déjà, la raison technique, c'est qu'il faut qu'ils nettoient le canal et qu'ils fassent un entretien. Non négligeable, parce que le canal, il a quand même un certain âge. Et la deuxième raison, et ça, justement, en allant voir le canal de plus près, on l'a appris, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est forcément au courant, c'est qu'il y a un débit réservé à l'ASA de Gignac, annuel. Ça a été négocié en annuel. Et le fait de fermer pendant un certain nombre de mois, ça veut dire que pendant tous ces mois, ils ne prélèvent pas. Donc, ils se donnent du bonus pour prélever sur la saison, entre guillemets, l'été. Estivale.
D'accord.
Si jamais ils nous laissaient le canal ouvert toute l'année... On n'aurait pas ce bonus en période estivale qui fait qu'il y aurait peut-être des périodes de coupure beaucoup plus longues.
Donc,
bon, après, j'expose moi tout ce que j'ai appris en allant les voir. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je n'ai pas vraiment l'avis à donner là maintenant. Mais voilà, après, c'est...
Ça rend difficile la diversification.
Difficile la diversification et les choses en général parce que, bon, c'est difficile de contenter tout le monde, quoi. On le sait, malgré tout.
C'est une question de priorité.
Après, si je parle vraiment d'un avis très personnel, il y a une question de priorité. Et je sais qu'il y a des départements voisins, pour avoir travaillé en Aveyron, par exemple, au niveau préfectoral, s'il y a vraiment des restrictions à mettre en place, ils priorisent certains secteurs. Et ils interdisent, par exemple, d'arroser des prairies ou des maïs à une certaine date. Mmh. Les cultures légumières de plein champ peuvent être encore irriguées, les maraîchages. Mmh. À partir d'une certaine date, si ça continue, ils peuvent même privatiser les cultures légumières. Donc les cultures type pommes de terre, des choses comme ça. Mais le maraîchage va perdurer un peu plus. Voilà, je parle de ça par rapport au fait qu'il y a certains prélèvements sur ruisseaux ou sources en irrigation, ou dans les lacs. Il y a pas mal de lacs dans le centre Aveyron, là. Enfin, pour avoir travaillé un peu là-bas, je sais que ça se passait un petit peu comme ça. Ici, nous, j'ai l'impression qu'entre la préfecture et la façon de fonctionner de l'ASA, c'est... Bon.
Oui, c'est pas idéal.
Je sais pas trop comment il fonctionne, ça.
Oui. C'est un peu, pour moi, c'est flou. Toujours...
Donc, voilà, je peux pas trop en parler.
C'est pas toujours très clair.
Je peux pas trop en parler, c'est... Ouais,
voilà. Et au niveau de notre territoire, est-ce qu'il y a plusieurs fermes déjà soutenues par Terre de Liens ou...
Sur le département de l'Hérault, il y a 7 fermes, dont 4 qui sont maraîchères, une ferme en élevage ovin et une ferme collective. Il y a plusieurs fermes collectives, c'est un peu une spécialité de Terre de Liens. Donc la ferme collective de vin, dont il y a plusieurs fermiers.
Plusieurs activités différentes.
Il y a des viticulteurs, il y a un apiculteur, il y a des plantes aromatiques aussi. Dans beaucoup d'endroits à Terre de Liens, il y a des fermes collectives.
Il y a celle qu'on a installée il n'y a pas longtemps sur le Larzac, les brebis, là.
Oui, c'est l'élevage au vin, oui.
Voilà.
À la vachenette, oui.
Oui.
Sur le département, on travaille aussi beaucoup, enfin sur le département et partout, mais... sur le pays cœur d'Hérault, on va dire, on va se rapprocher un peu de nous, sur le pays cœur d'Hérault, Terre de Liens travaille avec le plan alimentaire territorial. Donc, dans ce plan alimentaire territorial, notamment, il y a notamment le travail avec ce qui a permis à la commune d'Agnan d'installer une personne sur une parcelle communale d'un hectare, qui lui permettra aussi peut-être d'installer un troupeau sur ces collines boisées, là. On travaille beaucoup avec les collectivités. Terre de Liens manage le groupe de veilleurs de terre, mais en lien avec dans le cadre du plan alimentaire.
La question, parce que
ça, c'est dans le cadre du plan alimentaire.
Voilà, j'ai vu un petit peu les dossiers de veilleurs de terre. C'est Terre de Liens qui. C'est une partie de Terre de Liens, veilleurs de terre, c'est une association séparée?
Non, c'est une activité de Terre de Liens. Disons que Terre de Liens est un peu expert en la matière parce que des groupes de veilleurs de terre, il y en a dans d'autres régions du mouvement. Et sur le pays cœur d'Hérault, en fait, c'est le plan alimentaire qui a fait appel à Terre de Liens puisqu'elle est un peu spécialisée là-dedans pour organiser cette activité. Donc les veilleurs de terre, ce sont des gens qui... Donc au départ, on a été formés par la salariée de Terre de Liens départementale, pour visiter des friches. L'objectif, en fait, c'est d'aller voir les friches, puisque sur le pays cœur d'Hérault, il y a 3000 hectares de friches potentiellement utilisables. Donc, on est parti des données de la DDTM là-dessus. Et ensuite, le groupe d'habitants va analyser les friches et voir à quoi ça pourrait servir. Voilà. Que ça soit des friches communales ou privées, il y a certaines communes qui demandent au plan alimentaire de venir, enfin, au groupe veilleurs de terre de venir, pour faire un état des lieux de ces friches. Voilà.
Est-ce que, au niveau des friches, est-ce qu'il y a une possibilité de les acquérir ou...
Non.
Quel est le rôle de veilleur de terre?
Le rôle de veilleur de terre, c'est d'aller sur une commune...
C'est juste de les dénombrer?
Voilà, de les dénombrer, de les caractériser. C'est-à-dire de voir si elles sont, à quoi elles peuvent servir, s'il y a... Comment est l'accès? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas l'eau? Parce que ça, c'est très important. Et voir agronomiquement à quoi elle pourrait servir et dire à la commune, si c'est des friches communales, dire à la commune, vous avez ça, vous pourriez en faire ça. Et si c'est des propriétaires privés, après, on organise en collaboration avec la SAFER, là, des réunions de propriétaires pour les inciter, en quelque sorte, à mettre à disposition leurs terres, que ce soit en location ou en vente. Voilà.
D'accord, très bien. Et ce programme alimentaire territorial, il est soutenu par les intercommunalités ou...
Il est à l'échelle du pays, le plan alimentaire territorial, il est à l'échelle du pays cœur d'Hérault, donc des trois Comcom. Il est soutenu il a été initié au départ par le Conseil de développement, qui est un organisme institutionnel d'habitants.
Le CODEV, non ?
Qui représente les habitants, à côté du syndicat des élus, à côté du CIDEL, qui regroupe les représentants des trois communautés de communes. Donc, on a eu des... Au départ, c'est le Conseil de développement qui a fait les... qui a instruit, en quelque sorte, les appels à projets pour avoir des sous, de façon à pouvoir embaucher deux chargés de mission. Et là, ça avance. Depuis 4 ans, on a fait quand même pas mal de choses sur plusieurs axes. Et on est soutenu.
Vous avez reçu des aides un petit peu pour avancer dans le projet.
Disons qu'on a, au départ, c'est la Fondation Carasso. On était dans le programme TETRA de la Fondation Carasso. Et maintenant, bah, en fait, les chargées de mission, elles cherchent des appels à projets de façon à pouvoir pérenniser leur poste, d'une part. Et d'autre part, financer des actions. Parce que les Terre de Liens, par exemple, pour l'action Veilleur de Terre, est financée par le plan alimentaire territorial, comme d'autres associations de l'agriculture paysanne, comme Terre Vivante, par exemple, puisqu'on travaille beaucoup avec Terre Vivante.
Très bien, oui. C'est une bonne ressource. Est-ce que vous avez quelque chose? On va arriver au bout de l'émission.
Donc... Je voudrais rajouter, Terre de Liens a sorti un rapport en février 2025 qui s'appelle « Souveraineté alimentaire, un scandale made in France », qui est accessible sur Internet, qui est hyper bien fait.
Je vous conseille vivement de le lire.
Voilà, il analyse absolument toutes les données et tous les coûts, y compris les coûts cachés. Parce que quand on est dans une alimentation très industrialisée, il y a des tas de maladies et de problèmes de santé qui sont recoupés sous le terme « coût caché » et qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas, mais auxquels il faut être vigilant.
Oui, il y a des coûts cachés pour la santé.
La santé, les sols,
pour les grandes maladies,
l'eau,
et pour l'environnement.
Voilà. Et oui, l'eau, l'air, les bêtes.
Très bien. En tout cas, merci à vous d'œuvrer dans ce sens et de permettre à des paysans et des maraîchers de s'installer et surtout de conserver des terres un peu nourricières pour les gens qui sont en demande et qui n'en trouvent jamais.
Oui. C'est surtout donc, ça. Vous pouvez consulter le rapport sur le terredeliens.org. Alors, Terre de Liens, ça prend un S, à lien. Et je vais vous donner le contact de l'association Terre de Liens Languedoc-Roussillon. Donc, le mail, c'est lr@terredeliens.org. Voilà, vous pouvez envoyer un mail, contacter l'association régionale si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, mais si vous voulez simplement être bénévole et venir nous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Ou offrir des terrains, ou vendre des terrains, c'est aussi terres. Faisable.
Je vous remercie tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Ne serait-il pas urgent de changer notre conception de l'agriculture avec son modèle industriel productiviste ? Essentiellement tourné vers les exportations, qui détruit, pollue les sols à grand renfort de pesticides. À l'heure du réchauffement climatique, le modèle agroécologique, respectueux de l'eau, des sols et de la biodiversité, n'est plus à démontrer et permettrait de mettre en place une agriculture nourricière et des revenus corrects aux paysans. Nos décideurs, bien que conscients, préfèrent tourner la tête vers les lobbies de l'agriculture intensive et reculent encore et toujours sur la mise en place de ces solutions pourtant porteuses de vie. Heureusement, les associations comme Terre de Liens ou Veilleurs de Terre œuvrent sur les territoires avec beaucoup d'énergie dans ce sens. Si vous souhaitez leur apporter votre soutien, le lien sera sur notre page RPH. Merci à tous, merci à Axel et à Pablo pour la technique. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Les chroniques du vivant de Corinne.